Donc ce matin, je vais m'entretenir avec vous au sujet du livre des juges dans l'Ancien Testament. Et à ce sujet, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Juges chapitre 2, versets 6 à 16. Juges chapitre 2, versets 6 à 16. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toute la grande chose que l'Éternel avait faite en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Verset 10. Toute cette génération, on parle de génération donc de Josué, fut recueillie auprès de ses pères et se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux du peuple qui les entourait. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Verset 13, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Ce matin, nous allons considérer une introduction, si vous voulez, sur le livre des juges, et on va regarder trois points. D'abord, des généralités sur le livre des juges. Il nous est besoin parce que tout le monde n'est pas familier avec cette histoire et donc c'est bien de le rappeler assez rapidement. Donc, des généralités sur le livre des juges. Et surtout, comme nous venons de lire tout à l'heure, quelles sont les causes de l'apostasie, de l'éloignement du peuple de Dieu. Et en troisième point, nous allons regarder les réactions de Dieu face à l'apostasie, l'éloignement de son peuple. Sans tarder, nous allons regarder première cause de l'éloignement du peuple de Dieu. D'abord, avant d'aller plus loin, il faut rappeler que le mot « juge » est un peu mal choisi. Parce que quand on parle de « juge », nous avons de suite à l'esprit un tribunal, il y a monsieur le juge, les magistrats et les avocats. Le mot « juge » vient de l'hébreu « sophetim ». Il est utilisé en Juges 2, versets 16 et 19 et 3, 10. Qui signifie tout simplement « chef ». Et quelle est leur responsabilité? Essentiellement militaire. Pourquoi? Parce qu'ils apportent une délivrance aux Israélites face aux ennemis qui cherchent à s'emparer des terres qu'ils possèdent déjà, ou de les empêcher de prendre celles que Dieu leur a promises. Donc, dans ce sens, c'est pour ça que je mets ici aussi il y a un souci, le plan. C'est le mot « juge ». Donc, ici, signifie aussi libérateur. Donc, ils sont chez leur responsabilité, diriger le peuple dans le bon chemin en étant eux-mêmes aussi des exemples dans la loyauté, la justice et de leur adoration exclusive à l'Éternel, l'inculquer au peuple. Mais quand vous lisez l'histoire des juges, malheureusement, ce n'était pas toujours le cas dans les vies de ces personnes choisies par Dieu. Il faut savoir que le livre des juges couvre une période se situe de la mort de Josué, qui est le successeur de Moïse, nous l'avons lu tout à l'heure, et qui a entraîné le peuple à conquérir le territoire de Canaan. Donc, entre la mort de Josué et l'histoire du prophète Samuel, qui oindra le premier roi d'Israël, Saül, avant que David n'accède au trône d'Israël. Retenez bien que le livre des juges couvre une période de 4 siècles de désobéissance, d'oubli de Dieu. Si on se reporte à ce que le livre des Actes nous dit en Actes 13, verset 20, « Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. » À l'époque, 450 ans couvre à peu près plus de 10 générations. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la période des juges, c'est le plus sombre de l'histoire d'Israël. Et l'auteur le caractérise et la martèle à plusieurs reprises qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce matin, j'aimerais tout simplement susciter votre attention. Pourquoi est-il important et quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui d'étudier le livre des juges? J'invoque tout simplement 3 points. D'abord, le livre des juges est un livre particulier qui parle, comme nous venons de voir, de l'apostasie, de l'abandon de Dieu. Et je pense qu'un tel sujet est aussi actuel aujourd'hui. Deuxième point, c'est que ce livre nous enseigne pour quelles raisons le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu. Parce que ça peut nous arriver et être enclin si facilement d'abandonner Dieu. Et troisième point, ce livre nous enseigne que Dieu, dans sa grâce, peut utiliser les épreuves pour aider son peuple à revenir à lui. Donc, brièvement, parlons du plan de ce livre. C'est comme un sandwich. Retenez bien le sandwich. Il y a le contenu au milieu, c'est ce que j'appelle la partie principale, qui va du chapitre 3, verset 7, à chapitre 16, verset 31. Qui raconte la vie des juges et leurs activités. Et il y a en haut la double introduction pour que l'auteur nous donne le décor, en quelque sorte. C'est une histoire caractérisée, comme nous venons de l'entendre, par l'échec. Et il va commencer par décrire l'incapacité des différentes forces armées à achever la conquête du pays promis, initiée par Josué. Puis il évoque les problèmes spirituels de la nation. Donc, double introduction, problème, il va parler de la situation militaire, il va parler de la situation spirituelle de ses contemporains. Et il va finir par 2 introductions où il va mettre en scène des histoires, je dirais, banales des Israélites qui va attirer l'auteur pour leur donner une indication pour comprendre la déchéance morale et religieuse du peuple à cette époque. Donc de 17.1 à 18.31, il va parler de l'histoire liée à Mica. Et de 19.1 à 21.25, il parlera de l'histoire liée aux Lévites d'Éphraïm. Donc, quelles sont les causes du déclin? Quelles sont les causes de la désobéissance, de l'apostasie? Donc, nous allons remarquer et observer ce que dit l'auteur à ce sujet. Je vous indique, vous pouvez lire, juge chez vous, chapitre 1, verset 1 à 36. Qu'est-ce qui se passe? Mettons-nous dans le contexte maintenant. Sous Josué, le peuple a possédé le pays. Et Dieu conduit maintenant le peuple jusqu'au pays promis et leur a donné ce pays de Canaan. Mais lorsque Dieu leur a donné le pays, lorsqu'Israël possède le pays, il y avait encore des combats à mener. Il y avait encore des combats à mener. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'intérieur du pays encore des tribus, des peuples qu'il fallait, selon la parole de Dieu, anéantir. Il faut se rendre à l'évidence que le fait de posséder le pays ne signifie nullement que la victoire est acquise complètement. Tout simplement parce que il y a encore des poches de résistance. Et Dieu les appelle maintenant à assumer ce travail. Donc, en quelque sorte, consolider les gains et anéantir toutes les poches de résistance à l'intérieur du pays. Et c'est là que nous nous trouvons, ce que vous avez sur le PowerPoint, où le livre commence, Juges 1, verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Juda dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. » Donc nous y sommes maintenant dans cette étape de consolidation des gains, hein, ce que Dieu leur a donné et qui a été commencé donc par l'œuvre de Josué. Et il faut se rappeler dans l'esprit que nous connaissons tous la rigueur de Dieu en ce qui concerne le pays promis. Depuis fort longtemps, Dieu a dit et a répété aucun traité, aucune alliance, pas de mariage. Il faut anéantir et détruire le pays. Chasser le peuple qui habite le pays, pas de compromis, aucun. C'est pour cela que je vous invite à vous rappeler de cet ordre de Dieu dans Deutéronome 7, ouvrez votre Bible, chapitre 1, Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 6. L'ordre de Dieu donné à Moïse et répété à Josué pour ce qu'il faudra faire et éviter surtout de faire dans la terre promise. Et nous lisons, verset 1, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu le dévoueras par interdit. » Vous voyez l'ordre, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. La raison, tu es un peuple saint pour l'Éternel, mis à part. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et qu'est-ce que nous lisons maintenant au chapitre 1 ? Nous lisons que les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. Ce n'était pas le cas de Juda et Siméon. Regardez, la liste est longue. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shéan. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. Aser ne chassa point les habitants d'Akko. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan. Donc, dès le début du livre de Juges, nous avons là un indice. Dieu leur avait dit aucun traité, aucune alliance, pas de mariage avec ce peuple. Il faut qu'ils les anéantissent et les détruisent. Et pourtant, par rapport au bon nombre de tribus dont nous venons d'énumérer, nous voyons que ces tribus ne dépossèdent pas d'emblée ce que Dieu leur demande. Les peuples de ce pays, donc, flagramment, il s'agit de la désobéissance. J'aimerais juste me mettre dans la peau de cet ensemble de tribus. Qu'est-ce qui leur pourrait arriver dans la tête ? Ce n'est pas dit dans la Bible, mais juste pour attirer votre attention. Mettons-nous à leur place, ils sont dans le pays après 40 ans dans le désert. N'est-ce pas? Et c'est quand même formidable. On n'est plus maintenant des nomades, on va être sédentaires, on va s'installer. Et ils sont là, ils voient tout ce pays et ce qu'ils proposent. Nous lisons par ailleurs que c'est un pays de lait, de miel, de repos, la richesse. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Israël, fort des victoires antérieures, n'oublions pas qu'ils ont vaincu Jéricho après une reconquête d'Aï, après un premier échec. Et maintenant la question se pose, mais est-ce que c'est vraiment important de chasser tous ces ennemis? Je me mets à leur place dans leur tête. Est-ce qu'il faut vraiment prendre littéralement ce que Dieu dit à Moïse, en Deutéronome que nous venons de lire? Après tout, on pourrait peut-être s'en servir comme esclave, comme serviteur, on pourrait les subjuguer. Et ce qui me frappe, quand je lis le livre des Juges, le chapitre 1, dans tout le développement, l'auteur s'arrête spécialement sur le tribut de Judas. Et c'est ce que nous allons faire, parce qu'il va mettre à la une Judas dans le chapitre 1, et nous pouvons voir dans le chapitre 1, versets 8 à 11 et 17 à 19, et je vous invite à lire chez vous, je résume ce qui est dit sur Judas. Judas a attaqué Jérusalem et ils s'en sont parés. Judas marche encore contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, ils ont remporté la victoire. De là, ils ont marché contre les habitants de Débir, encore une victoire. Et puis Judas partit avec Siméon, son frère, il battit les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Et nous lisons, Judas s'empare encore de Gaza et de son territoire. Mais au verset 19, il y a quelque chose d'inattendu et inenvisageable qui s'était produit avec Judas. Nous lisons, regardez chapitre 1, verset 19, « L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine. » Je répète, « L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. » Ma question, comment est-ce possible que l'Éternel fût avec Judas et que Judas n'ait pas pu déposséder les habitants de la vallée? Nous venons de lire le palmarès de Judas. Le texte ne dit pas que Judas n'a pas essayé. Il a eu les victoires l'une après l'autre. Et là, il se trouve devant ces habitants de la vallée qui avaient des chars de fer. N'oublions pas qu'à l'époque, posséder des chars de fer, c'était posséder les armes les plus modernes. Et donc, nous voilà dans le récit, Judas stoppé net dans sa conquête. Et la question, pourquoi? La question, c'est que, qu'est-ce que Dieu attend de Judas dans cette circonstance précise? Stoppé net dans sa course, dans sa conquête. Qu'est-ce que Dieu cherche? Pourquoi permet-il cet échec? Dieu voulait savoir, et en demandant, je pense comme ça, Judas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vas-tu continuer à lutter? Et même si cette fois-ci tu n'as pas pu, est-ce que tu vas finalement baisser les bras ou continuer de combattre? Permettez-moi d'illustrer un peu ainsi ce qui est dit dans le chapitre 1 ici. Imaginez dans cette histoire, les Israélites devant une évaluation, une épreuve. Et le sujet de l'évaluation, c'est déposséder les habitants du pays et détruire les poches de résistance. Et l'auteur est en train de montrer, face à l'évaluation, d'un côté Judas et Siméon reçoivent de très bonnes notes. 8 sur 10. Et tout le reste, Benjamin, maison de Joseph, Manassé, Ephraïm, Zabulon, Aser, Nephtali, Dan, ont reçu, à votre avis, 0 sur 10. Ils ont rendu une copie blanche. Et oui, nous lisons qu'ils n'ont même pas essayé de faire quoi que ce soit. Et pourtant, quand vous lisez attentivement ce livre, l'évaluation était très importante. Et je vous invite à lire votre Bible dans Juges chapitre 3, versets 1 et 2. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Je répète. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas couru toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Donc l'épreuve était sérieuse. Dieu avait un but précis, comme nous venons de lire. Donc, le message du livre, de l'auteur du livre des Juges est clair, il faut passer l'évaluation avec réussite, comme Judas et Siméon n'ont pas imité l'ensemble des autres tribus qui a rendu une copie blanche, parce qu'ils n'ont même pas essayé de faire quoi que ce soit. Donc, dans ce premier chapitre, c'est clair, d'une part, on voit un tribu qui obéit, Dan, Siméon, qui va à l'encontre des ennemis et qui remporte des victoires, et d'autre part, un ensemble de tribus qui ne dépossèdent en rien les habitants du pays. Ça, c'est le cas de ces peuples d'Israël. Mais quelle application pour nous aujourd'hui ? Chers frères et sœurs, Dieu veut savoir, lorsqu'on est devant les épreuves, ça peut être des pressions au niveau professionnel, ça peut être des pressions au niveau familial, ça peut être des pressions sous l'aspect pécuniaire, ça peut être des pressions au niveau relationnel, émotionnel, et la liste est longue. Alors, allons-nous continuer à combattre ou est-ce que nous allons baisser les bras? Et c'est là que j'ai mis en bas en rouge. Je crois que la première raison de l'élanement, c'est que dans l'ensemble, le peuple d'Israël a tout simplement cessé de combattre. Baisser le bras. À quoi bon? À quoi bon? Donc, ne jetons pas la pierre à Israël. Vous savez, appliquons pour nous aujourd'hui cette réalité. Devant les difficultés de la vie chrétienne, le péché sous ses différentes formes, les convoitises, la jalousie, la colère, l'amertume, la méchanceté, le mensonge, les péchés de pensée, les péchés de la langue. Et la liste est longue. Et souvent nous nous disons, comme on entend beaucoup ici et là, « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ma nature. Je suis comme ça. Ne cherchez pas plus loin. Regardez mon père. Il était comme ça aussi. » Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'étais toujours en colère, toujours impatient, toujours porté à cela. C'est dans ma nature. Et devant notre soi-disant nature, on baisse les bras. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais toujours comme ça. Mon mari est comme mon père. Il est comme ça. Ma belle-mère est comme ça. Attention, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. C'est de l'incrédulité devant la parole de Dieu. Aucun de nous n'avons le droit de proférer l'excuse que c'est dans ma nature. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'évangile, ne pensez jamais tout simplement, c'est comme un billet que j'ai dans la poche pour aller au ciel. Je l'ai. L'évangile, s'il n'opère pas dans notre vie de tous les jours des libérations, des victoires progressives en ce qui concerne le péché, ce n'est pas de l'évangile. J'ose emprunter ce que dit l'apôtre Paul, un faux évangile. Oui, car l'évangile traite non seulement la racine du péché, mais aussi les fruits du péché dans nos cœurs et dans nos vies. À l'image de ces territoires à conquérir, j'aimerais bien à ce sujet que vous écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul, que ça nous touche de près ce qui se passe à l'époque des juges. Dans Éphésiens 4, versets 25 à 31, « Renoncez aux mensonges. » C'est un territoire à déposséder dans notre cœur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que celui qui dérobait n'aidera plus, mais plutôt qu'il travaille. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Voilà. ceux qui, dans nos cœurs, ont besoin chaque jour que l'Esprit de Dieu travaille pour déposséder de ces choses, ces territoires qui sont là dans notre vie. Regardons maintenant la deuxième raison de l'éloignement de Dieu. Je dirais la trahison envers l'alliance de l'Éternel. Je vous ai dit, le livre de Juges, c'est comme un sandwich. Il y a les doubles introductions, double conclusion, et dans le milieu central, le contenu, l'auteur martèle. Retenez bien le chiffre 7. À 7 reprises, comme un refrain, il dit, « Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. » Vous voyez, 3-7, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. 3-12, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Encore ce qui déplaît à l'Éternel. 4-1, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. 6-1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. 8-33, c'est un peu formulé autrement, mais on parle de la même chose. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Ils prirent Baal Bérit pour leur Dieu. Mais qu'est-ce que, d'après le texte, signifie cette expression « ils firent ce qui déplaît à l'Éternel » Il va l'expliquer. Il va l'expliquer. Et nous lisons dans le chapitre 2, verset 12, verset 13, verset 17 et verset 19. Je vais vous le lire, vous n'avez pas besoin de le chercher. Donc, la première explication, qu'est-ce que ça veut dire « ils firent ce qui déplaît à l'Éternel » Ça veut dire adopter les cultes des Cananéens, ceux des Baal. Donc chapitre 2, verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux du peuple qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux. Ils irritèrent l'Éternel. Verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. Verset 17, ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux. Ils se prosternent devant eux. Ils se détournent promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Verset 19, mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant auprès d'autres dieux pour servir et prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Juste parce que, important de préciser, dans le contexte de l'époque, et parlons rapidement des idoles. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, l'idolâtrie c'est sous deux aspects. À l'époque de l'Ancien Testament, il y a les idoles muettes. Ça peut être des morceaux de bois, des morceaux de fer, de l'or, de l'argent, peu importe. Qui peut facilement se casser. Mais, il y a un autre aspect que nous lisons dans la Bible, que derrière les idoles, il y a des puissances de ténèbres. Il y a des démons avec qui communient à son insu ceux qui se sacrifient pour les idoles. Donc il y a les idoles en tant que bois, morceaux de bois. Isaïe en parle beaucoup de cela. Mais derrière ces idoles, il y a des démons qui se cachent. Et d'ailleurs, Paul fait allusion à ceci. Notez-le dans 1 Corinthiens 10, versets 14 et 19 à 20, pour vous montrer, quand on sacrifie aux idoles, les idoles ne sont rien. Mais le plus dangereux, c'est que derrière les idoles se cachent des esprits démoniaques. Et en sacrifiant aux idoles, on est en communion à son insu avec les démons qui se cachent derrière. Nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 14, verset 19 à 20. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ah, nous sommes dans le sujet. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou que l'idole est quelque chose? Nullement. Verset 20, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. C'est très bien clair. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc Paul dit que sacrifier aux idoles, c'est se mettre en communion avec des démons qui se cachent derrière ces idoles. Et à ce sujet, je vous rappelle, l'ordre de Dieu est très clair. Dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, j'aimerais que vous tourniez votre Bible là-dessus, nous dit que les nations qui habitent habitaient la Palestine pratiquaient l'astrologie, la magie, l'occultisme, le spiritisme sous différentes formes. Verset 9. Lorsque tu seras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits des morts. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Et Dieu avait déclaré, verset 12, « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc les Cananéens s'étaient livrés à une pratique généralisée des choses occultes, comme nous venons de lire, hein, et qui est défendue par Dieu. Il faut bien entendre que lorsque les hommes se livrent à l'occultisme, hein, ils s'ouvrent au prince de la puissance de l'air, ce qui entraîne immanquablement le jugement de Dieu. Et c'est pour cela qu'il fallait donc que les Cananéens soient jugés. Cette extermination des Cananéens était si importante que Dieu l'avait prévue dès le livre de la Genèse. Rappelez-vous, Abraham, plusieurs siècles avant. Il lui avait dit, donc nous lisons dans Genèse 15-16, à la quatrième génération, en parlant de son peuple, ils reviendront ici, à Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'iniquité des Amoréens n'avait pas encore atteint son cote maximale. Et c'est lorsqu'ils se sont livrés aux pratiques occultes que la coupe a débordé et qu'il a fallu que Dieu sévisse. Et ici aussi, il y a un avertissement pour nous. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens croient aux prédictions des astrologues. Beaucoup consultent les horoscopes et s'adonnent à des pratiques occultes. Et j'attire l'attention aux enfants. Ça peut commencer par des jeux apparemment anodins à l'école. Esprit, es-tu là? Avec les copains et les copines comme des jeux. Mais attention les enfants, ne faites pas ces choses. Pourquoi? Parce que la question qu'on peut dire, est-ce que Dieu va vraiment juger pour cela? Je vous le dis, oui, certainement. On ne se livre jamais impunément à Satan, l'ennemi des âmes, lorsque l'homme se livre consciemment aux puissances de ce monde. Il faut savoir que son esprit est spirituellement flétri et sa conscience s'endurcit. Vous savez, les différentes formes d'occultisme ou de magie polluent les âmes. Elles les plongent dans une obscurité spirituelle qui va jusqu'à empêcher le contact avec Dieu. Oui, les Israélites avec leurs armées n'étaient donc que l'instrument de Dieu pour exterminer le mal à sa racine. Donc le problème d'extermination de Cananéens, génocide, excusez-moi, ou la raison donnée par Dieu n'est pas une raison raciale ou racisme. La raison, comme nous venons de le voir, c'est spirituel. Aux yeux de Dieu, c'est important. Très important. Il ne veut pas que son peuple soit contaminé par ces pratiques occultes dont nous venons de lire les conséquences, comme Dieu l'a bien signifié dans l'ordre qu'il donne. Deuxième raison ou l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fuit ce qui déplaît à l'Éternel. Et Juges 3, 5 à 6 sur le PowerPoint. Les Israélites, ça veut dire, les Israélites se mariaient avec des Cananéens, donc ils violent directement l'ordre de Dieu. Regardez, Juges 3, 5 à 6. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ça amène nous, ils servirent leur Dieu. Et pourtant, nous venons de lire l'interdiction de Dieu à ce sujet. La consigne de Dieu envers son peuple est claire. L'ordre de Dieu est absolu. Pas de lien par alliance du mariage avec les Cananéens. ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème de racisme ou racial, mais surtout un enjeu de taille spirituelle. La présence des Cananéens aux côtés des Israélites aurait été une menace directe sur leur vie spirituelle. Ils sauraient entraîner Israël dans l'idolâtrie. Et c'est ça qui préoccupe Dieu avant tout. Dieu voulait que le peuple l'adore et l'adore lui seul. Dieu voulait que son peuple ne soit pas tenté de pratiquer le culte dédié aux idoles. Et c'est important, quand j'étudie ce texte, je regarde dans ma propre vie. Et il faut bien retenir que Dieu a tellement fait pour ce peuple. Et maintenant, dans ce territoire, promis tant d'années auparavant à Abraham, il s'éloigne de Dieu. Écoutez bien, il s'éloigne de Dieu pas une fois, pas une deuxième fois, pas une troisième fois, mais sept fois. Et chaque fois qu'il tombe, il tombe encore plus bas. Sept fois. Et chaque fois qu'il tombe, il ne tombe pas au même niveau, mais encore plus bas. Plus bas. Comment est-ce possible? Cette période de l'histoire d'Israël est caractérisée, comme je veux vous montrer maintenant, la répétition d'un cycle de quatre phases successives, une spirale descendante qui s'étend sur plus de 300 ans. Et pour que vous voyez ce cycle, ce passage est très clair dans Juges 3, 7 à 11. Et nous allons lire et vous repérez, je l'ai souligné, les phases dans lesquelles le peuple, c'est un cycle qui se répète, mais un cycle qui ne reste pas au même niveau, mais qui tombe encore plus bas. Juges 3, versets 7 et 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils, première phase, servirent les Baals et les idoles. Verset 8, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains de Cushan-Rishtaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans. Deuxième phase, asservis à Cush-Rishtaïm. Verset 9, les enfants d'Israël crièrent. C'est la phase 3 à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, phase 4, qui les délivra, en parlant du premier juge, Othniel, le fils de Kenaz, frère de cadet de Caleb. Lorsque l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, il partit pour la guerre, et l'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishtaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishtaïm. Et le pays fut en repos pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. On pensait que, waouh, ils ont bien terminé, hein. Nous lisons verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. On recommence le cycle. Donc, phase 1, c'est le péché de rébellion manifeste par l'idolâtrie. Et au verset 7 de ce chapitre 2. Dieu s'irrite de leur désobéissance et par conséquent, il autorise d'autres peuples à les vaincre et à les opprimer. Phase 2, l'oppression, verset 8. Troisième phase, alors, il y a un gémissement écrit vers l'Éternel. Il supplie l'Éternel de le délivrer. Phase 3, verset 9. Et quatrième phase, délivrance de Dieu. Dieu suscite des juges, ces juges, ça peut être civils ou héros militaires locaux, qui mettent fin à l'oppression. Et puis le silence pendant une période où le peuple et le pays vivent en paix. Othniel ici, 40 ans de paix. Et le cycle recommence. Comme je viens de dire, plus que d'un simple cycle, il s'agit d'une spirale descendante dans la désobéissance. Pourquoi on peut dire ça? Quand vous lisez Juges chapitre 2, verset 19, notez juste, mais à la mort du juge, ils seront corrompus de nouveau plus que leur père. Notez, plus que leur père. En allant d'après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Juges 2, 19. Ils se corrompèrent de nouveau plus que leur père. Oui, vous me dites là, ça c'est à l'époque des juges. C'est loin, l'Ancien Testament. Mais qu'en est-il de nous, pour nous aujourd'hui? Au fur et à mesure que l'on lit le livre de Juges, on constate progressivement le peuple s'éloigne de Dieu. Et on est obligé de faire le constat que l'éloignement de Dieu, l'abandon de Dieu, était chose facile. Ça, c'est la première chose qui me saute à l'esprit. Un peuple tellement béni et si facilement s'éloigne de Dieu. C'est quoi? Donc ce livre nous rappelle que non seulement le peuple d'Israël avait de la facilité à s'éloigner de Dieu, mais nous aussi. Nous avons de la facilité à nous éloigner de Dieu. Il est tellement facile de pointer le doigt à Israël en disant « oui, finalement hein. ». Et pourtant, quand on regarde aussi dans le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église, on constate exactement la même chose. Je vais vous faire penser tout simplement à Apocalypse 2, verset 1 à 7, où Jésus donne son verdict concernant une église dans l'Asie mineure, l'église d'Éphèse. Et je ne veux pas le lire, on n'a pas le temps, mais vous connaissez ce texte, vous pouvez le noter et je vous encourage à le lire. Mais ce qui semble, ce qui est d'après ce texte, c'est qu'on peut maintenir son orthodoxie, ça veut dire la bonne doctrine, droit dans la parole de Dieu, et être tout à fait correct face à cette doctrine, et même dans ce que Jésus reproche à cette église, même capable de lutter contre ceux qui prêchent autre chose, des fausses doctrines. Et encore, il pousse le bouchon plus loin. On peut même, jusqu'à certains points, souffrir pour la vérité qu'on croit. Et pourtant, aux yeux du Seigneur, on peut vivre dans un éloignement de Dieu lui-même. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas l'orthodoxie ou l'amour, mais l'orthodoxie et l'amour pour Dieu. Il veut que nous restions proches de lui dans son intimité. L'éloignement, c'est la triste réalité et c'est l'histoire de l'Église. Vous savez, je découvre en moi, je vous invite à regarder en vous-même, cette facilité extraordinaire de m'éloigner de Dieu. On peut être présent au culte chaque dimanche, aux études bibliques, à l'école de dimanche. On peut même adopter le vocabulaire évangélique, le sourire évangélique pour saluer tout le monde après le culte. Mais on peut tomber facilement dans la routine et le rituel. Mais personne ne peut lire ce qui se passe dans mon cœur. Sauf Dieu, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Acceptons-nous d'être repris par le Seigneur Jésus-Christ comme il s'adressait à cette église d'Éphèse. Je ne sais pas l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez ce matin. Mais permets au Seigneur de parler à votre cœur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. C'est sérieux. Ce n'est pas que l'époque des juges, mais nous sommes enclins facilement de nous éloigner du Seigneur. Parfois, sans se rendre même pas compte. On s'installe dans la routine, le rituel, mais nos cœurs se dessèchent. Petit à petit, s'éloignent de Dieu. Que Dieu puisse, par sa grâce, toucher notre cœur afin de revenir à lui. Il y a toujours une voie ouverte pour Dieu. Confessez le péché. Il va vous pardonner. Il faut se repentir et abandonner. Et vous allez être restauré à nouveau dans la communion avec Dieu. Regardons maintenant le dernier point. Quelles sont les réactions de Dieu quand son peuple s'éloigne de lui? Nous avons dit que c'est un livre très triste, car il nous rappelle que nous tous, nous sommes extraordinairement fragiles, enclins à nous éloigner de Dieu. Mais ce qui est remarquable, chers frères et sœurs, dans la partie centrale du livre, du chapitre 3, 5 à chapitre 16, 31, comme je vous ai dit, il y a sept histoires dans ce livre où le peuple de Dieu se détourne de Dieu sept fois, et sept fois nous voyons comment Dieu, dans sa fidélité, ramène son peuple à lui. Quelles sont les réactions de Dieu? Dans sa bonté, il suscite les épreuves à sept reprises pour ramener son peuple à lui. Il y a une phrase qui revient maintes fois dans ce livre. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et c'est celui-là. Puis il les livra. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient. Il les vendit entre les mains des ennemis alentour. Et ça s'est répété, voire juge de 23, voire juge 6-1, voire juge 3-1. Une question se pose. En quoi le fait de livrer son peuple à ses ennemis est une manifestation de bonté, de grâce, d'amour de la part de Dieu? Nous pensons complètement, moi, c'est pas possible. On ne fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. Et c'est cette question qui se pose ici. Il les livra. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au Romains chapitre 1 Romains chapitre 1, Dieu livra les hommes à leur penchant quand ils détournent leur dos de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Et donc, en quoi nous disons livrer son peuple à ses ennemis est une manifestation de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde de la part de Dieu? Oui, le psalmiste disait ceci avant d'être humilié. Je m'égarais. À présent, je garde tes ordres. Oui, permettez-moi de vous dire, Dieu nous aime tant qu'il ordonne même la misère dans notre vie pour que nous revenions à nous-mêmes. Et revenus à notre bon sens, nous découvrions à nouveau notre besoin de Dieu et que nous nous approchions à nouveau de lui. Oui, n'avez-vous pas connu de tels moments de difficulté dans votre vie, des épreuves? Je me rappelle toujours. Et je suis rappelé toujours, lorsqu'on les traverse, on ne les aime pas. Ce n'est pas pour vous qu'on ne les aime pas. On ne saute pas de joie devant les épreuves, les souffrances, les afflictions. Mais avec le recul, on se rend compte que c'est un Dieu Père qui nous aime et qui nous les a permis pour que nous restions dans la dépendance à lui. Gardez au moins, si c'est ça déjà, c'est une bonne chose. Dans ce livre, le peuple s'est détourné de Dieu 7 fois. Et 7 fois, nous voyons comment Dieu, dans sa fidélité, ramène son peuple à lui. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça me fait rappeler Proverbe 24, 7, 16. 7 fois, le juste tombe. Et il se relève. 7 fois, le juste tombe et il se relève. Donc nous trouvons un principe important dans le livre des juges. Nous avons le peuple de Dieu qui tombe, et par la grâce de Dieu, il peut se relever. Mais cette fois, il ne tombe pas sous le même niveau. Comme nous avons dit, le cycle, une spirale descendante, deuxième chute, puis la troisième chute devient toujours pire. C'est-à-dire que le peuple tombe toujours plus bas. Et comment Dieu a permis cela ? C'est pour nous donner la leçon que la grâce de Dieu est merveilleuse. Lorsque nous tombons, il faut accepter cette grâce. Il faut être au clair. Par contre, que nous n'avons pas le droit de jouer avec la grâce et de penser, « Oh oui, je chute une première fois. Une deuxième fois, oh ben je veux faire à nouveau l'expérience de la grâce merveilleuse de Dieu. Une troisième fois, ben, hein, Dieu va, je veux faire l'expérience de la grâce de Dieu merveilleuse. » Attention. Cette mentalité, l'apôtre Paul le disait d'une autre manière, mais parlons de la même mentalité. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse? Loin de là, je dis non, non. Quand on marche intentionnellement dans la désobéissance à la parole de Dieu, il faut s'attendre à ce que la prochaine chute va être plus bas et encore plus bas. Oui, prions pour chacun d'entre nous que Dieu fasse inculquer dans nos vies la vraie crainte de lui, que ça s'empare chaque jour de notre cœur, hein, afin d'éviter de faire ce qui lui déplaît. Oui, ceci dit, on peut avoir une optique. Hein, quand je lis le livre des juges, j'ai relu. Ce que je ressors, ce que je constate, c'est un livre très négatif. Il traite des chutes, il traite des échecs, il traite d'apostasie, d'éloignement de Dieu. Ce n'est pas glorieux. Mais ce qui est formidable, à force de lire, à force de méditer dessus, il faut ajouter que ce n'est pas seulement un livre d'échecs, mais c'est un livre où la grâce de Dieu brille. C'est un livre où la grâce de Dieu brille. Je veux terminer par là. Comment la grâce de Dieu brille-t-il dans le livre des juges? N'est-ce pas? C'est remarquable que Dieu n'a pas laissé son peuple dans la misère de son état spirituel. Mais dans sa grâce, il est venu, il est intervenu pour délivrer son peuple par les moyens des juges à chaque fois. Si on appelle ça pas une grâce, quoi d'autre? Quoi ça correspond? Oui, le Seigneur a vraiment à cœur de nous aider. Ça, c'est le message. Il a à cœur de nous aider. Comment la grâce de Dieu brille-t-elle dans le livre des juges? Dans ce contexte de déclin, de désagrégation morale, rappelez-vous, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Regardez comment Dieu manifeste et fait briller sa grâce. C'est dans ce contexte-là que Dieu cherche. Dieu envoie des hommes et des femmes capables de remonter le courant, relever les défi et de ramener son peuple à connaître la crainte du vrai Dieu de la Bible. D'où le contenu 3, 5 à 16, 31 qui parle de ces juges qui arrivent. D'abord, il livre au peuple et des juges qui libèrent. Des juges qui libèrent. Oui, comment la grâce de Dieu brille-t-elle dans le livre des juges, dans cette période de l'histoire très sombre d'Israël, la détérioration morale et spirituelle? Cette détérioration morale et spirituelle ne devient en aucun moment généralisée. Ça, c'est quelque chose qui ressort du livre. Quand vous lisez du début à la fin, ce n'était pas généralisé. Ce sont que des crises sporadiques qui éclatent dans des régions séparées à divers moments. L'ennemi avait pour but d'enflammer tout le pays, contaminer tout le pays, le désastre spirituel. Dieu n'a pas permis. Chaque fois que quelque chose se lève, un tourne le doigt à Dieu, Dieu, avec le cycle que nous venons de voir, Dieu va les livrer à ses ennemis. Ils vont crier à Dieu et Dieu va envoyer les juges. Oh, c'est magnifique. Oui, Dieu a arrêté chacun de ces rébellions pour qu'ils n'atteignent pas de grandes proportions. Oui, toutefois, la rébellion contre Dieu éclate. Celui-ci suscite une nation étrangère pour opprimer les apostats jusqu'à ce qu'ils se repentent et reviennent à Dieu. Oui, quand je lis le livre des juges, maintenant, mes pensées sont changées. Oui, c'est un livre d'échecs, désastre, c'est trop sombre. Oh non, je ne veux pas. Mais le message d'espoir, la réalité, c'est la grâce de Dieu derrière tout cela. Il aime son peuple. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, n'oubliez jamais ça. Si Dieu permet les épreuves, permet les afflictions, ne doutez à aucun moment de sa bonté. Avant d'être humilié, je m'égare. Dieu veut nous ramener à lui. Et ça, c'est la manifestation de la pure grâce de l'amour de notre Dieu.